Slate Podcast.
L'écriture pour faire avancer les droits des femmes.
J'ai toujours voulu ça, même très très jeune.
Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.
J'ai toujours voulu avoir une vie indépendante.
Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et auditeurs. Nous ouvrons aujourd'hui la cinquième émission du podcast Le Deuxième Texte, le podcast des idées féministes qui met en avant des femmes autrices. Je suis Aude Loriot et je suis toujours avec mes consoeurs Nassira El-Mouadem, journaliste indépendante, et Marie Kirchen, rédactrice du site web Des Inrocks.
Salut.
Bonjour les filles.
Salut Aude.
Ce cinquième et dernier épisode de la saison se penche aujourd'hui sur le dernier livre de la politologue Réjane Sénac, « L'égalité sans condition », paru aux éditions Rue d'Échiquier en mars 2019. C'est une autrice qu'on connaît bien à Slate, qu'on apprécie et qu'on a interviewée plusieurs fois. Alors pour la présenter en quelques mots, elle est directrice de recherche au CEVIPOF, le Centre de Recherche Politique de Sciences Po. Elle a siégé au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes de 2015 à 2019. Et si je devais résumer sa pensée en quelques mots, je dirais qu'elle a beaucoup travaillé à la fois sur la parité en politique et la notion de diversité, avec toujours un peu en toile de fond cette même idée que l'égalité doit être sans condition. Elle dénonce le concept de diversité quand il est associé par les élites à la performance et elle fustige la parité quand elle est justifiée parce que les femmes apporteraient quelque chose de différent. Son dernier livre reprend et poursuit ses analyses avec cette fois une forme d'exhortation, j'ai envie de dire, une forme d'adresse lancée à la nation tout entière. Osons nous imaginer et être semblables, qui est le sous-titre du livre. Et donc, Marie, tu vas nous lire un extrait qui résume cette idée.
La diversité, c'est bon pour le business. Si Lehman Brothers avait été Lehman Sisters, il n'y aurait pas eu la crise. Pourquoi les politiques d'égalité, femmes-hommes, mais aussi pour les personnes dites issues de la diversité, sont-elles justifiées au nom d'une complémentarité rentable? Nous trouverions, par exemple, déplacé, du moins pouvons-nous l'espérer, d'aborder la question du respect des règles de sécurisation des chantiers à travers un arbitrage entre les coûts, matériels et humains, et les économies engendrées par le non-respect de ces règles. Alors moi j'ai pris cet extrait, en fait je trouve que c'est un extrait qui est vraiment sur, qui résume très bien l'idée importante, qui est très, très importante dans son œuvre, qui est la volonté d'obtenir, enfin, selon Réjane Sénac, il y a vraiment l'idée que la volonté d'obtenir l'égalité ne devrait pas se faire sous condition. Ce qu'elle veut dire par là, c'est que on a beaucoup entendu les discours libéraux qui disent il faut l'égalité des salaires parce que ça permet plus de croissance. Ou par exemple, s'il y avait eu plus de femmes à des postes haut placés, il n'y aurait pas eu la crise parce que les femmes sont censées être plus prudentes, etc. Donc il y a toute cette idée-là, on est très habitué à ces discours-là, et on pourrait se dire que effectivement, ces discours finalement positifs pour l'égalité, parce que...
Alors, comme pragmatique.
Très pragmatique, comme dirait ma grand-mère, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre.
Et donc du coup... Hommage à ta grand-mère.
C'est important. Et donc du coup, on pourrait se dire, si c'est ça qui va motiver les grands patrons, les chefs d'entreprise, pour mettre en place des politiques d'égalité salariale, pourquoi pas? Mais du coup, Réjane Sénac pose vraiment la question de est-ce que tous les arguments sont bons à prendre? Et moi, c'est un peu ce que j'ai envie de vous demander.
Est-ce qu'il n'y a pas un revers de bâton?
Ouais.
Elle, en tout cas, elle y répond, Réjane Sénac.
Complètement.
Elle dit qu'effectivement, tout n'est pas bon à prendre et que tous les arguments ne sont pas valables, notamment les arguments néolibéraux. Et il y a effectivement cette idée très forte qui est que sur la question de l'égalité, sur la question de la lutte contre les discriminations, la lutte pour les égalités en règle générale, il n'y a pas de calcul à faire entre le coût et le bénéfice. Un principe est un principe, selon elle, et il ne doit pas être soumis à des critères de rentabilité et de comptabilité. Et c'est vraiment la question très importante qu'elle pose durant tout son bouquin, Réjane Sénac, et avec une question en toile de fond, c'est qu'est-ce qui se passera lorsqu'on aura considéré, lorsqu'on aura fait le calcul selon lequel, finalement, l'égalité n'est pas rentable. Qu'est-ce qu'on fait? On l'abandonne? Est-ce qu'on abandonne la lutte contre la discrimination si demain on considère, grâce à des chercheurs, grâce à des études scientifiques, bah, qu'en fait, c'est pas rentable et c'est pas économiquement viable.
Et qu'il est plus rentable d'être inégalitaire.
Exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Réjeanne Sénac, dans son livre, elle dit bien que c'est un danger démocratique, finalement, de réfléchir dans ce sens-là et que l'égalité en tant que principe républicain doit rester un principe en tant que tel et donc gravé dans le marbre et une sorte de ligne rouge à ne pas dépasser.
Ouais, parce qu'effectivement, on peut voir, donc, par exemple, des arguments qui est pour l'égalité, il y avait la Fondation Concorde qui avait sorti une étude qui disait, donc selon elle, les inégalités salariales entraînaient une perte de 62 milliards par an pour l'économie. Donc là, on se dit, c'est dingue, 62 milliards, il faut à tout prix qu'il y ait l'égalité. Mais on pense aussi, par exemple, à Christophe Barbier, qui est cité dans ce livre de Réjeanne Sénac. Lui, il avait dit, donc c'était sur le plateau de C'est dans l'air, sur France 5, en janvier 2017, il avait eu un point de vue tout autre, donc on va l'écouter.
Il nous a décrit un autre raisonnement économique dans le sujet, c'est de dire si on paye les femmes comme les hommes, à compétences égales, et tout le monde le souhaite, évidemment ça engendre des cotisations supplémentaires, donc on peut faire partir les gens à 60 ans et c'est financé. Sauf que c'est vrai au moment où nous parlons, parce que les femmes qui sont à la retraite et qui seront payées, eh ben, elles ont des petites retraites parce qu'elles ont eu des petits salaires pendant leur carrière. Le jour où les femmes bien payées arrivent à la retraite, ça explose en vol. Et au passage, si d'un seul coup on dit les femmes sont payées comme les hommes, tout le monde va applaudir, mais les entreprises vont avoir beaucoup de mal à encaisser ce surcoût de main-d'œuvre.
Coût de main-d'œuvre.
Eh ouais, ça coûte cher l'égalité. Hein.
Ah, c'est ça. Ouf.
Donc voilà, on voit vraiment que ça peut être utilisé comme un contre-argument, justement, de dire c'est pas possible, ça coûte trop cher en fait.
D'ailleurs, ça m'a rappelé tout cet argument, son livre qu'elle avait fait il y a déjà pas mal d'années, s'appelle « L'invention de la diversité », où elle développe aussi cette idée d'une égalité sous condition, justifiée donc au nom d'arguments économiques et de performance. Et elle fait le parallèle avec le discours politique, parce qu'il n'y a pas que des chefs d'entreprise, des businessmen qui emploient cet argument, il y a aussi plein d'hommes et femmes politiques.
Même les journaux aussi. Et les médias.
Même les journaux et les médias. Et voilà. Et elle cite Nicolas Sarkozy en janvier 2010 au plateau de Saclay lors des vœux au monde de l'éducation et de la recherche qui dit ceci, je vais vous le lire. J'ajoute que les grandes écoles ont tout à gagner à diversifier leur recrutement. Enfin, mesdames et messieurs, un pays qui recrute ses élites dans 10% de la population, c'est un pays qui se prive de 90% de son intelligence. Comment ne peut-on pas comprendre cette vérité ? Voilà, alors c'est ce discours-là, c'est finalement un discours pareil, enfin de un peu pragmatique, mais qui aussi un peu la branche sur laquelle il est assis. Et ça imprègne beaucoup de politique. Dans le livre L'invention de la diversité, elle cite Éric Besson, l'ancien ministre de l'immigration, l'ancienne secrétaire d'État à la famille Nadine Morano, l'ex-conseiller technique de Sarkozy, Rachid Kassi, donc pas mal de gens.
Et c'est intéressant d'ailleurs que tu cites Éric Besson, parce qu'Éric Besson, dans l'intitulé de son titre, il était effectivement ministre de l'immigration, mais aussi ministre de l'identité nationale. Et derrière cette question de la diversité, il y a aussi le sous-titre, ce qui ne se dit pas, ou en tout cas ce qui s'assume un peu moins, quoique Éric Besson l'assumait totalement, c'était la question de l'identité. C'est derrière la diversité, c'est qui nous sommes et qu'est-ce que l'autre, et l'autre étant forcément divers, quand je dis l'autre, c'est l'arabe, le noir, l'immigré. Et là, à mon avis, il y a aussi quelque chose de ce glissement, en fait, de la
l'égalité.
Notion d'égalité vers la question de diversité, vers la question de l'identité.
Oui, et même de la question de l'égalité à la question de l'identité. Parce que finalement, on est passé d'une époque où on disait il faut que tout le monde soit égaux, il faut l'égalité pour elle-même. Enfin, en tout cas, il y a eu un discours très l'égalité pour l'égalité qui, pendant des années, a imprégné les discours politiques, à un discours de l'identité des personnes, mettre en avant son identité de femme, son identité de personne racialisée. Et alors, bizarrement, c'est-à-dire que on va toujours reprocher aux personnes racialisées et aux femmes d'avoir ce discours, alors que très souvent, les militants antiracistes, les militants féministes dénoncent ce discours. Je vais citer, pour être plus concrète, Rokhaya Diallo, qui est citée par Réjeanne Sénac, qui dit... En nommant des ministres issus de la diversité, on les fige dans des identités en faisant de leur origine un facteur prédominant par rapport à leurs compétences. Donc Rokhaya Diallo, qui est dénoncé par plein de gens comme le printemps républicain, comme étant soi-disant la chantre de l'identité, on parle des identitaires de gauche, etc. Et ben en fait, elle dénonce ce glissement de l'égalité à l'identité elle-même.
Et elle dénonce aussi l'assignation, du coup, cette assignation.
Elle dénonce cette assignation identitaire. C'est toujours compliqué, parce que si on se met... quand on essaie de comprendre aussi pourquoi il y a ce glissement, c'est un glissement qui est favorisé par le discours politique ambiant, mais c'est aussi un glissement parce que quand on est renvoyé à son identité, quand on est aussi exclu parce qu'on est femme ou minorité, et qu'on sent qu'on a peut-être une carte à jouer comme femme ou comme minorité, bah c'est difficile parfois de ne pas utiliser ce qu'on a dans la poche finalement.
Mais surtout parce qu'on est attaqué personnellement et qu'à un moment, on a aussi besoin de se défendre, nos identités multiples, qui nous sommes, notre parcours, notre passé, notre héritage familial. Que c'est aussi, à mon avis, surtout ça qui est difficile en fait à encaisser. C'est qu'à un moment, tu es obligé de te défendre et d'expliquer qui tu es.
Tu es obligé de te défendre, mais même parfois pour se faire valoir. Enfin, c'est un truc qu'on développe... une idée qu'on développe dans le livre que j'ai coécrit avec l'historienne Mathilde Larrère. En fait, il y a plein...
Des intrus en politique.
Voilà, des intrus en politique. Et il y a plein d'exemples dans ce livre, comme Ségolène Royal, par exemple, qui joue de son image de mère en faisant venir les caméras à la maternité, comme Marine Le Pen qui joue sur son image de femme pour adoucir le côté un petit peu dur du Front National. Et c'est ce que le sociologue Éric Fassin appelle le paradoxe minoritaire. C'est parce que il dit que les minorités visibles sont vouées à prendre la parole en tant que telles pour n'être pas traitées en tant qu'eux. Donc c'est un total paradoxe.
Alors on sait que l'idée principale de Réjane Sénac, c'est de dire il n'y a pas de conditions à l'égalité. C'est vraiment le thème central du bouquin. Mais il y a quand même une exception, c'est la question de la discrimination positive. Réjane Sénac, elle dit que l'application de l'égalité ne doit souffrir d'aucune conditionnalité, mais que pour l'atteindre, eh bien, elle doit tenir compte des différences de situation, de contexte, car ces derniers, eh bien, peuvent eux-mêmes engendrer des inégalités qu'il faut corriger, et c'est là qu'elle justifie la discrimination positive.
Et c'est vrai que le Conseil d'État rappelle, donc il a fait un rapport public en 96 où il rappelle ceci. Donc la discrimination positive est une catégorie particulière de discrimination justifiée, mise en œuvre par une politique volontariste et dont l'objectif est la réduction d'une inégalité. Vraiment, la discrimination est positive, elle est légale et elle est légitime parce qu'il y a vraiment cette idée de l'enjeu, c'est de sortir de la vision mythique de l'égalité pour vraiment arriver à une égalité réelle.
Vous écoutez le deuxième texte, aujourd'hui consacré au livre de Réjane Sénac, L'égalité sans condition.
Et on passe au deuxième thème de l'émission, le mythe d'une République française égalitaire.
La psychanalyse peut aider à dénouer les héritages implicites qui façonnent et limitent la vision contemporaine du principe d'égalité à la française. La typologie freudienne de la personnalité humaine exprime un mécanisme subtil d'affrontement et d'entraide entre les trois grandes instances psychiques fondamentales, le « ça », le « moi » et le « surmoi ». Tant que nous n'aurons pas fait un travail consistant à dire que notre héritage, notre « ça » républicain, est hétérosexiste, hétéronormatif et raciste, nous ne pourrons pas lutter contre les inégalités et les discriminations que nous diagnostiquons aujourd'hui. C'est la condition pour agir sur leurs racines. Entre l'idéalisation du surmoi égalitaire et le déni d'un ça inégalitaire, le moi républicain est schizophrène. Pour ne plus subir collectivement et individuellement cette pathologie, il faut assumer un héritage ambivalent et se donner les moyens de le dépasser dans une cohérence exigeante et critique. Cela demande de faire une psychanalyse politique, c'est-à-dire collective et idéologique, démarche par définition coûteuse, dérangeante et inconfortable. Alors, ce qui m'intéresse dans cet extrait qui est un peu...
J'espère que vous nous suivez toujours.
qui est assez corsé, hein, c'est qu'avec une métaphore, elle pose une des idées très importantes de ce livre, c'est qu'il existe un fossé entre notre représentation de la République et ce que la République est vraiment. Alors, bon... On a, en principe, quand même, tous et toutes, un petit peu étudié vaguement ce que c'est le ça, le surmoi, en philo, au bac. Mais je rappelle vite fait, quand même, deux, trois choses. C'est que le surmoi, donc que Freud a longtemps aussi appelé l'idéal du moi, c'est la partie de l'inconscient qui fixe les interdits, qui permet de vivre en société. C'est ce qui sublime nos pulsions. Et le ça... Au contraire, c'est le domaine des pulsions, du désir brut, de tout ce qui est refoulé et parfois laid, tout ce qu'on ne veut pas voir. Ce qui est super intéressant dans cette métaphore, en fait, c'est que grâce à la psychanalyse, on peut expliquer comment des vérités sont occultées. Et là, c'est en fait notre république raciste, sexiste, qui est complètement remplacée par une république idéalisée, égalitaire. Et dans les faits, c'est pas du tout ça, parce que les révolutionnaires ou ceux qui les ont inspirés sont très loin d'avoir pris en compte les femmes et les minorités.
Ouais, carrément. Et après, évidemment, c'est liberté, égalité, fraternité. Et on voit que fraternité, pas du tout. Puisque, effectivement, au moment de la Révolution française, donc les femmes sont complètement exclues de la citoyenneté active. Déjà, elles n'ont pas le droit de vote, ce qui est quand même un peu la base. Et elles vont mettre énormément de temps à l'avoir, parce que c'est juste en 1944. Mais au-delà de ça, il y a un décret...
1944.
Oui, pas 1844. Non, un siècle plus tard. donc 1944. Et donc, à l'époque révolutionnaire, il y a un décret que cite Régine Senna, qui visait à interdire les clubs féminins pour pas que les femmes se rassemblent ensemble et papotent un peu politique. Et un des arguments du député Jean-Pierre André Amar, lui, il explique que les femmes sont de façon générale peu capables de conception haute et de méditation sérieuse, donc dénuées de force morale et physique qui exigent le traitement des affaires publiques. Donc on voit bien qu'à l'époque, on n'est pas trop dans la fraternité, les femmes ne sont pas du tout incluses dans cette espèce de groupe des frères qui vont s'emparer de la politique.
Et si je peux me permettre, d'ailleurs, c'est intéressant cet exemple d'exclusion des femmes des clubs politiques. C'est parce qu'en fait, il y avait beaucoup de gauchistes, on dirait aujourd'hui, chez les femmes, en fait, c'est-à-dire des hébertistes, elles étaient radicales. Et en fait, on a aussi fait ce décret en utilisant la carte du genre pour exclure les plus radicales.
Et donc ça, c'est en 1793. En 1804, à partir de 1804, il y a l'incapacité juridique des femmes qui est inscrite dans le Code civil. On doit attendre la loi de 1965 pour que les femmes puissent travailler et ouvrir un compte sans demander l'autorisation de leur mari. Donc on voit bien que voilà, c'est pas du tout. Les femmes n'ont pas été incluses notre idéal républicain le laisse entendre.
Et d'ailleurs, ça perdure aujourd'hui.
Oui, et pas uniquement pour les femmes, pour l'ensemble des minorités, si on peut les appeler comme ça. Le mythe est utilisé à dessein, dit Régine Senna, pour illustrer à quel point la notion d'égalité est un idéal, mais malheureusement mythique au regard des faits, non pas uniquement de manière abstraite. Et il y a une actualité récente qui le prouve, c'est cette tribune, je ne sais pas si vous l'avez lue, qui a été publiée dans le journal Le Monde le vendredi 21 juin 2019, écrite par des élèves de seconde de Seine-Saint-Denis et dont la force du propos mérite d'être soulignée. Alors grosso modo, ces étudiants, enfin ces lycéens, qu'est-ce qu'ils disent ? Eh bien tout simplement que l'école de la République ne réserve pas les mêmes conditions à la jeunesse de Seine-Saint-Denis, aux enfants d'immigrés, aux pauvres qu'aux élèves des centres-villes. Vous préférez vivre ensemble entre vous que de vivre ensemble avec nous. Et il d'ailleurs fustige les conditions inégalitaires, matérielles, d'enseignement, d'éducation dans les établissements de banlieue. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il y a une question de génération aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2019, il y a une jeunesse qui est tout à fait consciente que finalement, l'égalité est un mythe, c'est triste, mais en même temps, c'est la réalité. Et que c'est effectivement un idéal à atteindre, mais que dans certains territoires, cet idéal est bien difficilement à atteindre. Et qu'il y a aussi des inégalités de conditions entre eux, jeunes de banlieue, et les autres, avec cette question que les jeunes générations ne sont pas dupes et ont même donc intégré que l'égalité n'était pas de fait réelle, mais bien un idéal difficile à accéder. D'ailleurs, ce qu'on sait, c'est que les élèves de Seine-Saint-Denis perdent en moyenne une année de scolarité par rapport aux autres élèves au même niveau à cause du manque de professeurs, du manque de remplacement de professeurs, des professeurs absents. Et donc, on voit bien le décalage qui se crée entre eux et les élèves des autres établissements publics.
Une vraie, vraie inégalité.
Exactement.
Et alors que ces lycéens, eux, ils ont bien compris qu'il y avait un fossé entre le mythe et la réalité. D'autres, comme le philosophe Raphaël Enthoven, sont en pleine idéalisation de la République, comme dans cette chronique sur Europe 1.
Mais il n'y a pas d'équivalent féminin à fraternité, puisque les femmes n'en sont pas exclues. Fraternité est un terme générique et généreux, qui inclut frères et sœurs, comme les droits de l'homme incluent ceux des femmes. On peut déplorer, bien sûr, que le langage dise les choses ainsi. Mais le mot n'est pas la chose, et il ne viendrait à l'idée de personne d'exclure les femmes de la fraternité.
Vous avez bien entendu, non, vous ne rêvez pas. Raphaël Enthoven a bien dit qu'il ne viendrait à personne l'idée d'exclure les femmes de la fraternité. Alors, je ne sais pas s'il a bien révisé ses cours d'histoire, mais au moment où, en fait, on invente la devise « liberté, égalité, fraternité », on n'est pas du tout en train d'inclure les femmes et les minorités. Pas du tout. Et en fait, fraternité, ça veut bien dire les frères. Et les non-frères, comme dit Réjeanne Sénac, qui emploie ce concept-là, eh bien les non-frères, les femmes, les non-blancs ou les personnes racialisées, d'ailleurs on dit bien non-blancs, hein, sont totalement exclus de la République. Et cette idée de fraternité est en fait un faux universalisme.
Et c'est vraiment, enfin, il y a une vraie cécité des intellectuels contemporains qui ne veulent pas voir ça. Et c'est le terme qu'utilise Réjeanne Sénac, cécité, je trouve que ça correspond très très bien. Elle, ce qu'elle propose, un autre terme, c'est-à-dire qu'il y a, donc il y a la fraternité, donc c'est les frères. On pourrait lui opposer la sororité, mais ça ne va pas, parce que du coup, ça concernerait que les sœurs. Et ce serait tout aussi excluant. Et donc, ce qu'elle propose, c'est l'adelphité ou la solidarité. Donc, adelphité, c'est vraiment un terme qui vient de la racine grecque adelph et qui désigne les enfants issus d'une même mère, donc que ce soit des filles ou des garçons. Et c'est une idée qui a déjà été portée par la féministe Florence Monreno. Elle a cofondé Les Chiennes de Garde. Elle a écrit un gros bouquin qui s'appelle Le 20e siècle des femmes, qui est sorti en 89 et qui est un gros pavé assez intéressant. Donc, il y a vraiment cette idée de trouvons un autre terme à cette liberté, égalité, fraternité, ça ne va pas à fraternité. Là, Réjeanne Sénac, dans ce livre, dit que, donc, effectivement, il y a la possibilité d'utiliser adelphité, qu'elle lui préférerait plutôt solidarité, parce que ça permet vraiment de sortir de cette analogie familiale qui a l'idée qu'il y a une ressemblance héritée, alors que solidarité, c'est plus large.
Et c'est toujours, en fait, cette idée d'un espèce de masculin générique prétendument neutre et universel qui, en fait, quand on pense à la symbolique du truc, est quand même vachement violent parce que ça efface totalement tout le reste. Et c'est les mêmes arguments qu'on retrouve dans le débat sur l'écriture inclusive avec cette idée que, bah oui, on peut dire 50 millions de femmes et un homme sont beaux. Et on accorde au masculin parce que le masculin est censé représenter la pluralité.
Oui, il y a souvent des gens qui me disent, qui du coup veulent nier, parce que évidemment cette règle-là elle est extrêmement sexiste, et souvent des gens qui disent mais non, c'est juste en gros une convention, le masculin est le neutre, etc. Et du coup je dis pas de souci, alors puisque ça fait des années qu'on fait ça, changeons. Si vraiment ça ne veut rien dire, ça ne pose pas de souci.
Mais tantôt au féminin.
Exactement. Et là on voit bien que là tout de suite ils veulent pas, ils sont contre et non. Donc
Puis quand on voit les conditions historiques de l'émergence de cette règle, comme quoi le masculin est le genre noble, ça se fait à un moment de répression des femmes, où on brûle les sorcières, et en fait on va effacer tous les féminins de la langue.
Après, pour moi, c'est vraiment de l'ignorance ou de la mauvaise foi, les gens qui disent que c'est pas une idéologie sexiste et que c'est juste une convention comme ça. Quoi. Il y a aussi les droits de l'homme, justement, qu'évoque Enthoven. Il y a plein de gens qui proposent de maintenant dire droits humains pour justement pas se limiter aux hommes.
Des droits humains ou droits humains Pardon. Je crois qu'on peut dire les deux.
Écoute,
selon
moi, je pense
les nouvelles règles d'orthographe.
Droits de la femme. Puisqu'on voilà. A dit qu'on inversait tout.
Il
n'y
a
voilà.
Pas de problème d'élision comme ça. Vous écoutez le deuxième texte et aujourd'hui, on se penche sur le livre de Réjeanne Sénac, L'égalité sans condition.
Alors nous allons passer au troisième thème de cette émission. Nassira, tu vas nous lire un extrait.
Oui, extrait page 49. L'égalité est la condition de la liberté. Pour être libre, il faut en effet être un sujet égal, émancipé de la maîtrise par un plus fort ou un plus légitime que soi. Nous serons toutes libres, sexuellement, quand nous serons toutes et tous des individus sujets de désir et de plaisir à part entière. Pour cela, les individus ne doivent plus être enfermés dans des identités de groupe, qu'elles soient associées à un sexe, à une religion, à une culture plus ou moins racialisée, à une classe sociale. Si nous souhaitons vivre dans une société égalitaire et émancipatrice pour toutes et tous, donnons-nous les moyens de dénoncer et de dépasser un héritage inégalitaire, injuste et sclérosant, et cela même s'il peut être notre avantage dans une appréciation resserrée de nos intérêts. Après cet extrait, Réjeanne Sénac arrive à, vous vous souvenez, l'après-MeToo, l'après-vague-MeToo, avec cette fameuse tribune qui a été publiée dans le journal Le Monde sur la fameuse liberté d'importuner, qui avait été évoquée par certaines intellectuelles, certaines artistes. Des tribunes, une tribune qui mettait en avant une soi-disante liberté, mais qui cache en réalité, et c'est ce que développe Réjeanne Sénac, une domination non assumée, un dressage et un contrôle des femmes, un ordre où le curseur du désir est contrôlé, mais surtout dicté par les hommes, desquels les femmes se doivent de disposer. Et cette liberté promue donc dans la tribune, eh bien, Réjeanne Sénac, elle considère qu'elle est inégalitaire, en ce sens qu'elle est l'apanage de quelques-uns seulement, les dominants, sans souci donc de l'émancipation et donc des libertés collectives et notamment des femmes.
Ouais, le problème de la tribune, c'est effectivement que l'égalité et la liberté sont opposées, c'est-à-dire qu'il y a ce mouvement MeToo qui demande plus d'égalité, et on répond par la liberté de certains d'importuner. Et donc les deux notions sont présentées comme contradictoires. Et là, il y a vraiment ce moment dans le livre où Réjeanne Sénac rappelle que l'égalité est la condition de la liberté, c'est-à-dire que pour être libre, faut pouvoir être un sujet égal, émancipé de la maîtrise par un plus fort ou un plus légitime que soi. Donc c'est vraiment l'idée que les femmes doivent être vues comme des personnes ayant aussi des désirs et cette liberté.
Après, ce qui était vraiment problématique, entre guillemets, sur cette tribune, c'était que, bah, d'abord, c'était de grands noms de femmes, hein, et qui, du coup, avec une question, enfin, sorte de prescription, en fait, de la part de ces femmes qui sont connues, reconnues, réputées, une parole forte, voilà, une parole modèle. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, il y avait aussi la question, bah, de l'instrumentalisation de la liberté, qui, elle-même, du coup, est productrice d'inégalités, notamment, bah, celle qui consiste à dénigrer aux femmes la liberté. Liberté, tout simplement, de témoigner et de dire ce qui leur est arrivé et de raconter finalement ce par quoi elles sont passées.
Et de se dire victime en plus. Ouais.
Et il y a un autre endroit où liberté et égalité sont en jeu dans ce chapitre, c'est l'art. Parce que là, en plus, on a des exemples récents où les deux s'entrechoquent et où la liberté d'expression est à géométrie variable. C'est l'exemple d'Aurel San et de Menel. Alors, je rappelle qu'Aurel San, c'est un rappeur qui a chanté « Sale pute » et qui dit notamment des choses comme « Je vais te Marie Trintignant », hein, en référence à Marie Trintignant, qui est morte sous les coups d'un chanteur célèbre, Bertrand Cantat. Et lui, eh ben, il n'a jamais été condamné. Enfin, il a été condamné une première fois par le tribunal et ensuite, il a été... comment on dit,
relaxé
voilà, en appel.
Aurel San, hein, pas Bertrand Cantat, on précise.
Non, Aurel San. Aurel San. Et de l'autre côté, bah, il y a une chanteuse, Menel, qui était dans le télécrochet The Voice, et qui, elle, pour des posts qu'elle avait publiés en étant toute jeune, je ne sais plus quel âge elle avait, mais 12-13 ans, quelque chose comme ça, et bah, elle a été obligée de quitter The Voice. Donc on voit bien là que c'est un peu deux poids, deux mesures.
Oui, c'est ce que dit Réjeanne Sénac, c'est que d'un côté on donne la légitimité à certains, et en l'occurrence là à Aurel San, mais c'est valable aussi pour d'autres. Elle cite par exemple Michel Houellebecq avec son roman Soumission. On donne cette légitimité de la liberté créatrice en fait, et qui pourrait être exempte de n'importe quelle transgression. Et de l'autre, on enlève ce droit-là à la liberté de création, justement, notamment à Menel et à d'autres, parce que ce sont des gens qui sont issus de minorités, ce sont des femmes, et donc du coup, on considère qu'ils ont moins le droit, en tout cas c'est ce que dit Réjeanne Sénac, de transgresser les limites.
Sûr qu'en plus, Manal, il y avait aussi, enfin, il y avait ses posts Facebook, il y avait aussi le fait qu'elle chantait la chanson en arabe, une partie. Et ça, il y avait plein de gens qui avaient pas supporté
ça. Oui, et qu'elle était voilée.
Et qu'elle portait le voile.
C'est le gros problème, ouais,
ouais,
de ça.
Bah, évidemment. Alors qu'en plus, sur Orelsan, on voit bien que même si, ok, il peut se dire que c'est de la fiction, que c'est un personnage, etc., il y a quand même intrinsèquement à la chanson une sorte de banalisation de la violence. Quoi. C'est quand même des choses qu'on va comme ça chantonner, alors que c'est des paroles qui sont extrêmement dures.
C'est ce que dirait Jeanne Salak, effectivement. Elle dit que le risque, en fait, le danger même, avec notamment Orelsan et d'autres, c'est qu'il y a une forme effectivement de banalisation et que cette liberté invoquée, eh bien, elle sert tout simplement la reproduction des inégalités et que du coup la liberté qui est invoquée, en fait, elle soit contradictoire à l'application de l'égalité en tant que telle et reproduise des inégalités et sert la tolérance sociale à l'égard des violences, quelles qu'elles soient.
Et d'ailleurs, comment il fait ça, Orelsan, en fait, bah, il joue avec son statut d'artiste, avec l'ambiguïté de son statut d'artiste, parce que c'est une chose de mettre en scène la violence, le viol, et d'en parler, parce que c'est des sujets importants, et c'est autre chose de le promouvoir. Et dans ses chansons, ça ressemble à une forme de promotion de la violence. Et c'est ce que dénonce la sociologue Nathalie Heinif, qui est citée par Réjeanne Sénac dans le livre. Elle dit « Si la diffusion devenait par principe libre, alors aucun contrôle ne pourrait plus s'exercer sur la diffusion de propos incitant à la haine raciale ou au meurtre ou d'images pédopornographiques pour peu que le cadre en soit artistique ou fictionnel. » C'est, elle a écrit ça dans une dérive de la notion de liberté de création. C'était un article dans Libé.
Après, Orelsan, il le fait parce qu'il peut le faire, parce qu'il y a une tolérance vis-à-vis de qui il est. Il appartient à un groupe dominant. En tout cas, on peut considérer qu'il appartient à ce type de groupe dominant, qui est un groupe mâle, blanc, de milieu socioculturel favorisé, à contrario d'une fille comme Ménel. C'est intéressant et c'est ce que Réjeanne Sénac développe dans son texte, ce fameux deux poids deux mesures et de qui parle. De qui parle et donc du coup la légitimité qu'a la personne à parler et à dire ce qu'elle a à dire.
Ça fait penser d'ailleurs à l'artiste aussi qui a écrit « Pendez les Blancs » finalement par rapport à « Sale pute » d'Orelsan. Enfin, là aussi, on peut se demander pourquoi il y a un traitement différent. Enfin, en tout cas, les deux ont fait polémique, mais Orelsan, lui, a été relaxé.
C'est le deux poids deux mesures qui est effectivement développé par Réjeanne Sénac dans son bouquin. Ouais. C'est la fin de ce cinquième épisode du deuxième texte.
Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés.
Si vous avez aimé le deuxième texte, vous pouvez nous retrouver sur le site de Slate et vous abonner sur votre appli de podcast préférée. Et maintenant, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon été à tous et à toutes. Et un bon été à toi, Nassira, et à toi, Marie.
Merci.
Merci. Salut, bonnes vacances.